Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Nathalie Barge à la présentation. Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 14 juillet 2022. Voici les titres. Le président ivoirien Alassane Ouattara reçoit ses prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Conan-Bédié. Les autorités maliennes suspendent toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA. Le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Yair Lapid s'engagent à ne jamais permettre à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Après une réunion à Istanbul hier, l'ONU dit espérer un accord pour débloquer les exportations de céréales à partir des ports ukrainiens. Après le journal, ce sera la Minute Éco et les sports. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara reçoit ses prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Conan-Bédié à Abidjan. La réunion vient tout juste de commencer. Le point avec Aïcha Diarra sur place. Aïcha, bonsoir, comment allez-vous?
Bonsoir Nathalie, ça va très bien.
Alors on vous écoute, est-ce que cette réunion a commencé ou non?
Oui, cette réunion a commencé. Henri Conan-Bédié et Laurent Gbagbo sont même arrivés avant l'heure prévue qui était 17h. Alassane Ouattara a reçu tout d'abord Laurent Gbagbo, ensuite il a reçu Henri Conan-Bédié et enfin les trois présentement sont en train d'échanger. Pour l'heure, aucune déclaration officielle, tout le monde reste suspendu à leurs lèvres parce que nous avons au total plus d'une centaine de journalistes internationaux comme nationaux qui attendent ce qui sera dit aujourd'hui.
Alors, est-ce que l'on a une petite idée hein, du contenu éventuellement de ces discussions ou pas du tout pour l'instant, Aïcha?
Pas du tout pour l'instant. Il n'y a que des hypothèses que nous émettons parce que nous savons tous combien de fois cette rencontre était recherchée et demandée par l'ensemble de la population ivoirienne parce qu'au sorti de cela, tout le monde espère en tout cas en Côte d'Ivoire qu'il aura un apaisement dans le climat politique ivoirien.
Merci beaucoup Aïcha Diarra, notre correspondante à Abidjan. On vous retrouve dans les prochaines éditions. Dans un rapport publié ce jeudi, des organisations de défense des droits humains dénoncent le système judiciaire ivoirien qui a, selon elles, réduit à néant les espoirs de justice des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011. La justice a été utilisée comme outil de contrôle et de pouvoir sous l'influence de l'exécutif, dénonce le rapport publié par la Fédération internationale pour les droits humains, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme et le Mouvement ivoirien des droits humains. Lors d'une conférence de presse à Abidjan, les ONG citent notamment la condamnation à perpétuité contre l'ex-premier ministre Guillaume Soro. Les autorités maliennes ont suspendu à partir de ce jeudi toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la mission des Nations Unies au Mali, y compris celles déjà programmées ou amorcées. Les détails avec Jean-Roger Billon.
Cette décision s'applique jusqu'à la tenue d'une réunion par la partie malienne dont la date n'a pas été communiquée pour faciliter la coordination et la réglementation de la rotation de ces contingents, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Bamako assure la MINUSMA de travailler de manière diligente en vue de réunir les conditions propices à la levée de cette suspension. Les autorités maliennes justifient leur décision en invoquant le contexte de sécurité nationale. Cette mesure intervient 4 jours après l'interpellation de 49 militaires ivoiriens qualifiés de mercenaires par Bamako. Selon Abidjan, ces soldats étaient déployés au Mali en tant qu'éléments nationaux de soutien, une procédure de l'ONU permettant aux missions de maintien de la paix de faire appel à des prestataires extérieurs pour des appuis logistiques.
Au Togo, un mouvement qui regroupe 7 partis politiques de l'opposition et 6 organisations de la société civile a annoncé l'annulation d'un meeting prévu samedi à Lomé pour éviter des violences policières. Après une nouvelle interdiction du gouvernement, les autorités avaient déjà interdit ce rassemblement de la dynamique Monseigneur Pozro, initialement prévu le 25 juin pour dénoncer la vie chère et l'impunité. La Cour de justice de la CEDEAO a jugé illégale la suspension pendant 7 mois de Twitter au Nigeria l'an dernier. Cette décision fait suite à une plainte de citoyens et d'organisations de défense des droits humains au Nigeria contre l'État déposée en juillet 2021, un mois après le début de l'interdiction du réseau social américain au Nigeria. En Ouganda, des décès causés par la faim ont été rapportés dans la région de Karamoja, dans le nord-est du pays, indique le bureau du Premier ministre. Selon une députée locale, il pourrait se compter par centaines dans cette région frontalière du Kenya et du Soudan du Sud, en proie à la sécheresse. Après avoir été frappé par des inondations, glissements de terrain et une invasion de criquettes, et qui subit par ailleurs des raids de voleurs de bétail.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis et Israël ont fait front commun ce jeudi malgré leurs divergences sur les moyens pour s'assurer que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire. Washington promettant d'utiliser toute sa puissance pour y parvenir. Jacques Aristide nous en dit plus.
À l'occasion de sa tournée au Moyen-Orient, le président américain Joe Biden a paraphé avec le premier ministre israélien Yair Lapid la déclaration de Jérusalem sur le partenariat stratégique entre les États-Unis et Israël, consacré en partie au dossier nucléaire. Selon ce texte, les États-Unis s'engagent à ne jamais permettre à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire et à utiliser tous les éléments de leur puissance nationale pour s'en assurer. Le président Biden a affirmé privilégier la voie diplomatique face à Téhéran, tout en précisant que les États-Unis n'allaient pas attendre indéfiniment l'Iran pour parvenir à un accord visant à relancer le pacte de 2015, alors que les pourparlers piétinent. Israël s'oppose à ce pacte et souhaite le maintien des sanctions contre l'Iran. Considéré comme la seule puissance nucléaire du Moyen-Orient, Israël accuse l'Iran de chercher à se doter de la bombe atomique, ce que ce pays dément catégoriquement. Après Israël, le président Biden se rend demain après-midi en Arabie Saoudite, rivale régionale de l'Iran.
En Ukraine, au moins 20 personnes ont été tuées ce jeudi par des frappes russes sur une ville du centre du pays. Cette guerre reste le plus grand défi pour l'économie mondiale, selon la secrétaire américaine au Trésor. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Ces frappes ont eu lieu à Vinnytsia, à des centaines de kilomètres des lignes de front. Selon les autorités ukrainiennes, le port stratégique de Mykolaïv, proche de la mer Noire, a été touché par une frappe de missile. Les principaux combats restent concentrés dans l'est de l'Ukraine et le Donbass. Avant une réunion des grands argentiers du G20 à Bali en Indonésie, Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, a déclaré que la guerre en Ukraine est le plus grand défi pour l'économie mondiale. Le président français Emmanuel Macron a averti que le conflit en Ukraine allait durer et qu'il faudrait se passer du gaz russe, car selon lui, Moscou se sert du gaz comme arme de guerre. Après une réunion hier à Istanbul, l'ONU dit espérer un accord pour le déblocage des exportations de céréales à partir des ports ukrainiens face à la hausse mondiale des prix des denrées alimentaires.
Et après la signature du partenariat stratégique israélo-américain face à Téhéran, le président iranien Ebrahim Raisi a mis en garde Washington et ses alliés au Moyen-Orient contre toute tentative de déstabilisation, déclarant dans un discours que la nation iranienne n'acceptera aucune insécurité et crise dans la région. Le président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a démissionné ce jeudi depuis Singapour où il venait d'arriver. À Colombo, les manifestants ont mis fin à l'occupation de bâtiments publics tout en promettant de continuer à mettre le pouvoir sous pression. La lettre de démission envoyée par email au président du Parlement a été transmise au procureur général du pays. Le chef de l'État sri-lankais a fui samedi sa résidence prise d'assaut par les manifestants alors que le pays traverse une grave crise économique. Il a réussi à sortir du pays hier en direction des Maldives d'où il a pris un avion pour Singapour ce jeudi. En Italie, le Premier ministre Mario Draghi, confronté à l'effritement de sa coalition, a annoncé en Conseil des ministres qu'il remettrait sa démission ce soir, indiquait le gouvernement. Une démission à la suite d'une motion de censure à laquelle les sénateurs du mouvement 5 étoiles de sa coalition n'ont pas voulu participer. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans La Minute Éco, présentée par Claire Morin-Gibourg.
En Afrique de l'Ouest, la campagne cotonnière 2022-2023 s'annonce sous de bons auspices. Du Burkina Faso au Mali, en passant par le Bénin et la Côte d'Ivoire, l'heure est à la revalorisation des prix aux producteurs. En Côte d'Ivoire, le kilo de coton sera acheté auprès des producteurs au tarif de 310 francs CFA, a annoncé le gouvernement hier au terme du Conseil des ministres. Pénurie de carburant, le gouvernement camerounais a dû débourser 317 milliards de francs CFA au premier semestre 2022 pour éviter les hausses de prix à la pompe. Toute augmentation alourdirait l'inflation qui se situe déjà à 4,6% selon le FMI, c'est-à-dire à plus de 3% la norme communément admise dans les pays de la CEMAC. Lors de sa dernière mission dans le pays, l'institution de Bretton Woods avait appelé les autorités à cesser leur soutien des prix à la pompe, tant cette politique est insoutenable à moyen terme. Ici, aux États-Unis, une récession reste évitable, notamment au vu de la solidité du marché de l'emploi, a estimé aujourd'hui Christopher Waller, membre du Conseil des gouverneurs de la Fed, la banque centrale américaine. Il s'est dit ouvert à l'idée d'une forte hausse des taux directeurs d'un point de pourcentage lors de la prochaine réunion fin juillet.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Suite et fin ce jeudi des quarts de finale de la CAN féminine au Maroc.
À suivre le choc au Cameroun-Nigeria qui se présente comme une finale avant l'heure. La Tunisie défie l'Afrique du Sud. Hier, le Sénégal a été éliminé par la Zambie. Victorieuse au tir au but, 4 tirs réussis contre 2. Un but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. En demi-finale, les Zambiennes affronteront le pays hôte, le Maroc, qui a sorti le Botswana grâce à sa victoire 2-1 en quart de finale. À noter que les qualifiés pour les demi-finales représenteront l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde féminine prévue du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Ferdinand Omanyala prendra part aux Mondiaux d'athlétisme.
Oui, le sprinter kényan, détenteur du record d'Afrique du 100 mètres, a finalement obtenu ce jeudi son visa pour les États-Unis où s'ouvre demain vendredi ses mondiaux d'athlétisme. Il a prévu de s'envoler ce soir et espère rallier à temps Eugene en Oregon pour être au départ de sa compétition qui débute dès demain soir par les séries. Jusqu'à hier, Ferdinand Omanyala n'avait pas son visa et a même envisagé ce jeudi matin de renoncer à la compétition avant de se raviser. Le troisième meilleur performeur de l'année sur 100 mètres avec ses 9 secondes 85 centièmes est une chance de médaille pour l'Afrique. Retour sur le parcours de celui qui cherche à révolutionner l'athlétisme kényan, connu pour ses performances en demi-fond et en fond, avec Nanit Talani.
En 6 ans d'une fulgurante ascension, il s'est fait un nom au pays où les coureurs de demi-fond et en fond sont rois. Ferdinand Omanyala et son entraîneur Duncan Ayemba veulent changer le regard porté sur l'athlétisme kényan.
Dans un pays où l'on pratique la course de fond, même la fédération n'a pas cru à un moment donné qu'il pouvait y avoir un sprinteur au Kenya. Il faut surmonter toutes ces difficultés pour devenir un sprinteur. Je crois que j'ai ouvert la voie à tant de personnes qui sont venues derrière moi. C'est l'une des choses que je voulais faire, laisser un héritage.
L'athlète de 26 ans porte 2 bracelets au poignet droit. L'un avec l'inscription 9 secondes 85 centièmes, son meilleur temps de la saison réalisé début mai. Sur l'autre, on peut lire 9 secondes 77 centièmes, le record d'Afrique qu'il a établi 8 mois plus tôt, 9e temps de l'histoire. Ces chiffres résument la dernière année du sprinteur kényan qui s'est révélé au plus haut niveau international en attendant de briller sur les 100 mètres lors des Mondiaux 2022, puis au jeu du Commonwealth.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Tchad, le chef des militaires au pouvoir, Mahamat Debi, s'en est pris violemment à Bob Menendez, président de la commission sénatoriale des affaires étrangères des États-Unis, pour avoir introduit une résolution au Sénat le 11 juillet en faveur de la démocratie au Tchad. Le sénateur américain a demandé au général Debi et aux autorités de transition tchadienne de s'engager à organiser des élections cette année, conformément au calendrier approuvé par l'Union africaine, en plus de leur promesse de ne pas se présenter comme candidat. Le point avec André Kodmadjingar, N'Djamena.
Il faut que les gens sachent qu'on est en 2022, le temps où des petits fonctionnaires travaillant dans des ambassades qui viennent donner des leçons ou des orientations aux chefs d'État africains est révolu.
Le général 5 étoiles Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition. Le sénateur américain, lui, s'est dit fier de faire une proposition de résolution critique affirmant le soutien des États-Unis à un dialogue national crédible et inclusif axé sur le retour de l'ordre constitutionnel et au rétablissement d'un leadership civil. Mahamat Idriss Déby n'a pas mâché ses mots.
Le Tchad est un pays souverain. Ce n'est pas un sénateur qui ne sait même pas placer le Tchad sur une carte et poussé par des lobbies qui va nous orienter ou qui va nous dire quoi faire de notre pays. Et de sur quoi un sénateur qui traîne des casseroles.
Pour les acteurs politiques, le général est allé trop vite en besoin. Et puisque le sénateur américain ne fait que rappeler aux membres du Conseil militaire de transition le respect de leur engagement.
Le rappel de la parole donnée ne mérite pas en retour ni des déconsidérations ni des verbiages qui font monter les enchères de manière inutile.
L'opposant Dr Succès Masra, pour lui, la souveraineté qu'évoque le président du Conseil militaire de transition est à géométrie variable.
Lorsque le Qatar a demandé au Tchad de différer l'organisation du dialogue sur la date duquel le PCMT s'était pourtant fermement engagé, je n'ai pas entendu qu'on ait rappelé au Qatar que ce n'est pas au Qatar de dicter au Tchad la manière dont le Tchad doit organiser son dialogue. Les partenaires qui viennent travailler dans notre pays, nous n'avons pas besoin de les traiter ni des petits fonctionnaires, ni des gens qui ignorent la réalité du Tchad. Je conseillerais à mon jeune frère de s'entourer davantage de diplomates qui pourraient lui conseiller peut-être un meilleur choix des mots, tout en sachant que oui, le destin du Tchad, c'est entre les mains des Tchadiens et des Tchadiennes.
Pour le constitutionnaliste Ahmad Mahamad Hassan, la réaction du président du Conseil militaire de transition est un aveu pour la conservation du pouvoir militaire.
La réponse est très passionnée parce que le simple rappel ne peut pas amener à cette colère qui transparaît dans les propos du président Mahamat Idriss Déby Itno. Il aurait dû simplement saluer cette coopération pour la démocratie et la liberté et tout simplement de laisser le porte-parole du Conseil militaire de transition de reconfirmer leur engagement. Le refus de confirmer engagement et d'être irrité par le rappel des notes de leur volonté de conservation du pouvoir et c'est dommage.
Peu avant cette polémique, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad avait déjà demandé au Conseil militaire de transition à tenir leur engagement de ne pas se présenter aux prochaines élections. Une déclaration qualifiée par Jean-Bernard Padaré, porte-parole du MPS, l'ancien parti au pouvoir d'opportune et qui, selon lui, s'apparente à une ingérence de nature à perturber la dynamique consensuelle et apaisée de la transition en cours. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Bénin, les boulangers pensent devoir utiliser la farine de céréales et de tuberculose locale dans la fabrication du pain. Le conflit russo-ukrainien a entraîné la cherté et la rareté du blé, ce qui incite les professionnels du secteur à explorer de nouvelles voies de production. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé.
Le pain est très prisé au Bénin, même si ces derniers temps, il faut débourser plus pour en acheter. Les boulangers avancent comme argument la rareté, donc la hausse du prix du blé. Face aux récriminations des consommateurs, certains pâtissiers et boulangers proposent la production à base de céréales locales. Gassien Adjagboni est un acteur politique, mais également un boulanger de renommée qui a fait l'expérience de l'introduction des céréales locales dans la production du pain.
La farine de manioc incorporée jusqu'à concurrence de 5%, aucune incidence, tout se passe bien. Quand on dépasse le cap de 5%, ça demande plus de technicité et plus de savoir-faire. Au niveau de la farine de riz, j'ai été agréablement surpris de voir que jusqu'à hauteur de 50% d'introduction, ça se passait très bien. Sur la problématique de la farine de maïs, jusqu'à concurrence d'introduction de 10% de la farine de maïs dans la production du pain, vous ne pouvez pas le constater. Tout se passait très bien. Donc, il faut même qu'on vous informe.
Malgré ces résultats, certains boulangers ont du mal à se faire à l'idée, car pour eux, il faut un préalable avant d'imposer un tel changement dans l'habitude alimentaire des Béninois. Alain Quenome est boulanger.
Il nous faut la disponibilité de la matière première dans le temps pour que lorsque nous allons commencer progressivement à donner des habitudes aux consommateurs, qu'on puisse maintenir l'offre. Il faut que nous puissions ensemble voir quels sont les actes qu'il faut poser pour encourager ceux qui font bien, sensibiliser et former ceux qui ne font pas bien à se mettre sur le bon chemin. C'est tout. Nous sommes une des rares corporations, nous avons autant de ministères qui agissent là-dedans. Nous sommes quand même une économie à ne pas négliger. Les chiffres relatifs à l'importation de la farine de blé, ce n'est pas des montants qui se chiffrent en millions, mais en milliards.
Francis Rediblet, boulanger de profession, n'est pas contre l'utilisation des céréales locales, mais pose beaucoup de questions préalables qui sont jusque-là sans réponse.
Ça n'a pas pris peut-être pour plusieurs raisons. C'est une question d'habitude alimentaire. Les premiers éléments que nous avons observés, mais qui va incorporer la farine locale à la farine de blé? Qui? Un. Deux. La farine locale, là, faut la rendre disponible.
Nous disons aussi qu'au-delà, il faut que nous puissions poser certaines questions. Il s'agit de dire qui sont les acteurs, comment ces acteurs sont classifiés dans la configuration du marché aujourd'hui.
Pour la nutritionniste Merveille Adoussiba, les Béninois n'ont pas à se préoccuper des apports nutritionnels du pain à base de céréales locales.
C'est une bonne initiative, les farines locales. D'abord, ce sont nos produits locaux. Quand nous prenons le pain fait à base du blé, vous savez que son glucose, c'est du gluten. Mais quand vous prenez le pain fait à base du manioc, son glucose, c'est de l'amidon. Mais les deux sont tous deux des polysaccharides qui nous apportent de l'énergie, ce sont des féculents. Si vous respectez la portion qu'il faut là, ce n'est pas encore inconvénient pour la santé.
En dehors de son apport nutritionnel, le pain à base de céréales locales peut être un véritable levier sur le plan économique. Les associations des consommateurs et le gouvernement à se pencher sur la question de façon sérieuse. Même si le consensus a du mal à se faire, la cherté du blé finira par forcer la main aux boulangers qui hésitent encore et aux consommateurs qui agitent l'excuse d'apport nutritionnel pour bouder les rares boulangeries qui proposent du pain à base de farine de manioc, de riz ou de patate douce. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, la province du Nord Kivu fait face à un manque de sang. Le centre provincial de transfusion sanguine alerte sur l'augmentation des besoins sanguins dans les hôpitaux. Un reportage de notre correspondant sur place, Zanem Neti Zaidi.
Le besoin en sang s'est fait sentir dans presque toutes les grandes structures sanitaires des Goma. Certains patients meurent par manque des poches de sang. Jean-Paul Sankara, un jeune étudiant, témoigne car il a vu un de ses proches perdre un membre de sa famille par manque de sang dans un hôpital dans l'ouest des Goma.
C'est déplorable de voir comment actuellement dans la ville de Goma, il y a carence des poches de sang dans des structures de santé. J'ai vu un ami proche perdre un membre de sa famille à cause du sang. Nous sommes partis à l'hôpital. La structure de santé n'a pas pu sauver la personne vu qu'il n'y avait pas de poches de sang pour la transfusion. Elle a fait recours à la banque du sang. Il n'y a pas eu une réponse favorable de leur part.
Même l'hôpital militaire de Goma connaît une pénurie de sang. Le médecin affirme que le besoin de sang a dépassé le nombre de poches disponibles, ce qui provoque des décès. Lieutenant Ngwai Mafuta Josué, responsable des services des laboratoires à l'hôpital militaire de Goma.
Nous avons constaté que les besoins de sang s'augmente. On consomme beaucoup l'essence ces derniers temps. Quand on a fait des bilans par rapport à l'année passée et les années antérieures, maintenant là, vraiment, nous constatons que les besoins au sang s'augmentent. L'année passée, on avait consommé environ 70 quelques poches de sang. Et l'année ici, on a déjà dépassé.
Selon Madame Liliane Bouiza, coordonnatrice du Centre provincial des transfusions sanguines du Nord Kivu, les besoins à sang sont énormes, ce qui oblige les centres à faire travailler ses agents pour collecter une quantité plus importante qu'auparavant.
On a constaté que le besoin en sang a fortement augmenté et qu'on n'arrive pas à couvrir correctement le besoin. Ceci fait qu'on enregistre parfois de décès par manque du sang en quantité suffisante. Je dirais même qu'on a presque doublé. L'année passée, nous, par mois, on collectait environ 1500 poches de sang, mais à ce jour, on est en train de faire un effort pour collecter 2900. Je dirais que les moyens ne suivent pas, mais nous sommes obligés de faire cette collecte-là de cette façon au prix des sacrifices des personnels.
Pour pallier à ces fléaux, les initiatives de sensibilisation, des récoltes de sang, ainsi que la sensibilisation de la fraternité entre les donneurs de sang ont été multipliées dans la région. Zanem Netizaïdia Goma pour VOA Afrique.
Au cours de sa tournée au Moyen-Orient, le président américain discute principalement de la stabilité régionale, des prix du pétrole et de la relance d'un accord sur le programme nucléaire iranien. Des défenseurs des droits humains appellent M. Biden à aborder aussi les circonstances entourant la mort des journalistes Jamal Khashoggi et Shireen Abu Akleh. Le point avec Cindy Sain de La Voix de l'Amérique, le récit de Jacques Aristide.
Le président Joe Biden a atterri à Tel Aviv hier, première étape d'un périple de 4 jours. Après des rencontres avec des dirigeants israéliens et palestiniens, le chef de l'exécutif américain va mettre le cap sur l'Arabie Saoudite. La sécurité israélienne et régionale est un objectif majeur. Des analystes croient que le voyage du président Biden au Moyen-Orient pourrait conduire à un rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. Mais la présence du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman lors d'une réunion à laquelle doit participer le locataire de la Maison Blanche a provoqué de vives critiques. Pour certaines ONG, il s'agit d'une gifle pour les droits de l'homme. Agnès Calamar est secrétaire générale d'Amnesty International.
Ce faisant, le président Biden est en train de suggérer que les droits de l'homme ne valent pas grand-chose et peuvent être négociés pour une gamme d'objectifs et de résultats. Cela brise à bien des égards la vision que le président Biden a offerte au monde après l'agression de l'Ukraine par la Russie.
La tournée du président américain en Arabie Saoudite est vue comme un recul par rapport à la promesse de Joe Biden de mettre les droits de l'homme au cœur de la politique étrangère américaine et de faire du prince héritier saoudien un paria sur la scène internationale après l'assassinat du chroniqueur du Washington Post, Jamal Khashoggi, en 2018. John Hirsch est le directeur des programmes de Democracy for the Arab World Now, une organisation à but non lucratif fondée par Khashoggi avant sa mort.
Je pense que c'est terriblement décevant pour l'Arabie Saoudite, les défenseurs des droits humains, les dirigeants de la société civile. Et je ne pense pas que ce soit particulièrement judicieux en matière de décision de stratégie et de politique. Je ne pense pas que cela profite aux États-Unis.
Les États-Unis et l'ONU ont trouvé indépendamment des preuves montrant l'implication directe du prince saoudien dans l'assassinat de Khashoggi, des accusations que le prince nie en bloc. Une autre polémique concerne la mort de la journaliste palestino-américaine Shireen Abu Akleh, tuée lors d'un raid israélien en Cisjordanie le 11 mai dernier. Sa famille a demandé une rencontre avec le président Biden à Jérusalem. Le département d'État a déclaré que les tirs israéliens étaient probablement responsable de sa mort, mais n'a pas pu dire si les tirs étaient intentionnels. Christian Ulriksen de l'université Rice.
L'administration de Trump et celle de Biden en particulier ont continué de faire pression sur les Saoudiens pour une enquête internationale. Il semble qu'il y a beaucoup moins de pression dans le cas de Shireen Abu Akleh.
Avant l'arrivée de Joe Biden en Israël, la Maison-Blanche a indiqué que la famille de la journaliste avait été invitée aux États-Unis pour s'engager directement avec le président. Des experts qualifient de difficile la première tournée de Joe Biden au Moyen-Orient en tant que président. Quant au groupe de défense des droits humains, ils passent à la loupe chaque poignée de main et chaque mot du président.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Georges Léonard Sagnio. À la présentation, Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.